France Culture.
À voix nue, Antoine Coudert.
Rodolphe Burger, musicien.
Premier épisode, une enfance dans la vallée. 1957, 1975. Guitariste, compositeur, chanteur, artiste à la tête de votre propre compagnie, entrepreneur donc, vous faites partie de cette génération qui a donné ses lettres de noblesse à cette musique électrifiée, arrivée des États-Unis à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ce rock'n'roll dont vous dites parfois qu'il a presque été inventé en Alsace, là vous êtes né aussi en 1957 à Colmar, dans le Haut-Rhin. Vous êtes un rocker français et aussi un cow-boy alsacien. Est-ce que vous partagez avec le monde anglo-saxon, avant cette vibration électrique, basse, guitare, batterie, c'est cette culture protestante qui vous a façonné, enfant et adolescent. Ce mélange de rugosité et de politesse, cette ironie qui plane, ce goût de l'expérience, de la chose réelle, de la chose éprouvée. Vous êtes à la croisée de plusieurs mondes, la France, l'Allemagne, la Suisse, la philosophie et la musique. Car vous êtes philosophe de formation, au sens de cette capacité à joindre le geste et la parole, la pensée et le mouvement. En politique, bien sûr, vous êtes engagé lorsqu'il le faut. Artiste contemporain, vous êtes de ceux qui envisagent la musique et les chansons, non seulement comme des formes de la culture populaire, mais aussi des territoires où s'entrelacent théâtre, littérature et cinéma. Vous avez produit une dizaine de disques avec le groupe Catonoma, qui, dans les années 90, a marqué les esprits, puis une dizaine d'autres en votre nom propre, sans parler de nombreuses collaborations avec des artistes tels qu'Olivier Cadio, Françoise Hardy, Jeanne Balibar, Rachid Taha, Jacques Higelin. Vous êtes un grand voyageur, vous faites votre valise en 10 minutes, vous partez en un coup de vent, ça va vite, comme sur la route lorsque vous conduisez, ça va trop vite. Vous voyagez en même temps, vous êtes ancré, vous avez grandi dans une vallée, et une vallée, comme dit la géographie, c'est une dépression. Et comme toutes les dépressions, elle creuse et elle ouvre en même temps. Elle approfondit et puis elle donne de la perspective. Votre dépression à vous, c'est celle de Sainte-Marie aux Mines, Rodolphe Burger, le Val d'Argent dans le Haut-Rhin. C'est le point de départ de cette voie nue qui commence aujourd'hui et qui va éclairer votre vie, votre regard sur le monde, les liens qui se sont faits et se sont défaits entre hier, le XXe siècle, et aujourd'hui, ce mois d'avril 2024, où vous nous accueillez chez vous, dans votre cuisine. Bonjour Rodolphe Burger.
Bonjour et bienvenue.
Alors pour commencer, je voudrais évoquer votre enfance, bien sûr, ce qui persiste du petit garçon que vous avez été, celui qui sautille sur un cheval imaginaire, ce cheval qui reviendra dans votre œuvre de grand garçon. Le western, Billy the Kid qui va inspirer un disque de Catonoma, et puis un autre avec les Indiens et l'écrivain Olivier Cadio. Et puis il y a cette chanson que l'on vous entend fredonner, My Pony, My Rifle and Me, souvenir de Dean Martin, le film Rio Bravo de War Hawks en 1959, vous aviez 2 ans. Et enfin ce Cheval Mouvement, le titre de l'un de vos albums qui a fait date et qui a été classé parmi les 50 grands disques du rock français.
Il y a une sorte de récurrence thématique et des Indiens et du cheval dans tout ce que j'ai pu faire.
Cheval Mouvement, donc mouvement dans cette vallée qui vous porte, qui nous ouvre aujourd'hui les portes sur votre enfance dont nous allons parler aujourd'hui. Mais d'abord, expliquez-nous en quoi c'est dans cette vallée d'Alsace où vous êtes né que s'est élaboré ce qui allait devenir la grande culture de masse du XXe siècle, c'est-à-dire le rock'n'roll.
Cette vallée pourrait sembler loin de tout, loin de cette Amérique où le rock'n'roll est né, mais en fait, pas du tout. C'est-à-dire que, à l'âge de 10 ans, c'est-à-dire en 67-68, j'ai eu l'impression d'être irradié ou par ce phénomène, comme toute une génération, et indépendamment de toute géographie, c'est le miracle de la radio. J'ai ce souvenir d'avoir pu comparer un jour, quand j'étais à New York, hébergé chez un Porto-Ricain, qui habitait comme ça dans les cloisters, on a pu comparer nos discothèques. On avait le même âge et il avait conservé tous ses disques. C'est 45 tours, et j'ai constaté qu'on écoutait exactement la même chose, au même âge. Alors qu'on était quand même dans des endroits de la planète assez éloignés. Donc voilà, j'ai pas du tout vécu, disons, mon enfance et mon adolescence dans cette vallée comme... j'ai pas eu le sentiment d'être isolé ou en exil du tout. Les choses me parvenaient grâce notamment à un internat qu'il y avait dans cette petite ville, qui était presque un internat punitif. On mettait les canards boiteux de l'Académie de Strasbourg, plus exactement tous ceux qui avaient déjà des vies intéressantes, c'est-à-dire qui allaient en stop à Londres chercher des 45 tours, qui jouaient de la guitare électrique, etc. Et donc on était tout à fait au courant, tout à fait au parfum dans notre petite vallée. À l'âge de 11 ans, c'était vraiment précoce, mais c'était dans l'air du temps, c'était 68, quoi. Allez-y, faites ce que vous voulez. Suivez votre désir. Hein. J'ai obéi à l'injonction de l'époque. Donc j'ai formé un groupe à 11 ans. Je savais à peine jouer. Et dans ma petite ville, j'ai pu vivre en miniature, comme ça, une expérience de groupe de rock quasi complète, avec tous les épisodes rituels, l'enthousiasme, la formation, l'excitation de ça, mais aussi après les soucis, les rivalités, le split inévitable. Voilà. Tout ça, je l'ai vécu dans ma petite vallée de Sainte-Marie, aux Mines.
Et alors, dans cette vallée, il y a quand même une singularité avec tous les mouvements de population, les personnes qui ont transité par cette vallée, venant d'Allemagne et de Suisse, puis pour partir aux États-Unis, et qui auraient quand même amené avec eux une culture qui serait une sorte de proto-histoire du rock'n'roll.
Oui, on peut dire ça si on a envie de légender un peu l'affaire, comme ce que mon ami Rachid Tahar faisait beaucoup. Lui, il a vécu à Sainte-Marie-aux-Mines, ce qui était la grande surprise quand on s'est rencontrés à Paris en... à la fin des années 80, c'est découvrir que lui aussi avait vécu dans cette vallée, quoi. Incroyable. À l'âge de 10 ans. Et lui, son grand jeu, c'était de refaire l'histoire de tout, mais aussi du rock. Et donc le rock était né, bien sûr, en Algérie et en transitant par l'Alsace. Ce qui est certain, c'est que, voilà, les États-Unis, on le sait, c'est une terre d'immigration. Donc bien sûr que ça... on peut même, dans la country américaine, on peut évidemment repérer des choses qui sont tout à fait germaniques. Enfin bon, c'est pas la peine d'énumérer quoi toutes les influences qui se croisent comme ça en Amérique et pour constituer cette musique incroyable et qui finit par donner le rock dans les années 50. Donc c'est vrai, il y a ça, c'est vrai que c'est une vallée qui a été, mais on pourrait dire ça de tout le bassin rhénan en fond, hein, de toute cette région rhénane. C'est une région qui a été constamment traversée quoi, qui est une région de circulation. Le Rhin lui-même. À charrier toute une série de choses historiquement, y compris liées au rock'n'roll. On peut faire une carte comme ça du Rhin, de la région rhénane, et pointer tout ce qui s'est passé relativement au rock'n'roll, y compris des constructeurs de guitares, des Rickenbacker, des Fender et tout ça qui était originaire de ce coin. Évidemment, il y a toute l'histoire aussi du rock dit allemand, de ce qu'on appelait d'un vilain mot le krautrock, et qui a joué un grand rôle. Je m'en rends compte surtout aujourd'hui, parce qu'à l'époque, je le recevais, ce krautrock venu d'Allemagne, au même titre que le rock venu d'ailleurs, d'Angleterre ou des États-Unis. Mais je mesure aujourd'hui l'importance qu'il a eue. On était aux premières loges de ça.
Vous pourriez préciser ce qu'il en est de ce krautrock dans l'évolution, je dirais, des genres musicaux
Je dirais que ce qu'il caractérise, parce qu'au fond, on a, bon, entre Kraftwerk, Faust, Cannes, Neuil, au fond, il y a d'énormes différences. Mais en même temps, c'est le point commun de toutes ces propositions, c'est qu'elles étaient radicales, je dirais. C'est-à-dire que les Allemands n'avaient pas le choix. Après la guerre, comme dans d'autres domaines, on pourrait parler de la philosophie ou d'autres domaines, il fallait recommencer à zéro. Enfin, tout héritage était problématique. Et donc, ils ont eu affaire à ça, les Allemands. Ça a dramatisé toute la problématique intellectuel, mais artistique aussi. C'est-à-dire qu'ils étaient obligés d'inventer quelque chose de neuf. C'est vrai dans le domaine de l'électroacoustique avec Stockhausen, par exemple, mais c'est remarquable que, par exemple, un des fondateurs du groupe Cannes, un des fondateurs, Holger Sukai, était un élève de Stockhausen. Donc il y a cette filiation d'une musique contemporaine électroacoustique très radicale, très novatrice, et d'un rock qui lui aussi cherche à tout réinventer, qui n'a plus l'appui d'une tradition ou d'un folklore. C'est ce qui fait que même les Anglais, à un moment donné, je parle de gens comme Brian Eno ou David Bowie, etc., sont venus en Allemagne chercher à se ressourcer, à se réinventer musicalement.
Vous dites que les Allemands n'ont pas eu le choix. Est-ce que les Alsaciens ont eu le choix, Rodolphe Burger?
Ah ben non, ils ont été embringués dans cette histoire aussi du pas le choix, quoi. Dans un destin terrible de les malgré nous, ça dit tout. Dans ma propre histoire, enfin, tout près de moi, mon père, nous a transmis comme héritage cette leçon. Il avait quoi, 17 ans au moment de l'annexion. Et il s'est immédiatement opposé. Il a fait de la résistance avec ses petites mains à Sainte-Marie-aux-Mines en peignant des croix de Lorraine sur les murs. Il a été immédiatement fait prisonnier par la Gestapo. Il a même cru qu'il allait être fusillé. Je pense qu'il s'agissait surtout d'une intimidation, parce que les Allemands ne voulaient certainement pas se priver des ressources d'un jeune Allemand éduqué qui était bilingue. C'est ça le paradoxe. C'est-à-dire qu'ensuite, il a été enrôlé de force, et comme il s'est retrouvé secrétaire d'un officier allemand. Mais un officier allemand de la Wehrmacht, l'Allemagne d'avant. Et donc l'héritage de mon père a toujours été double, c'est-à-dire à la fois une espèce de leçon sur évidemment l'expérience du nazisme, et en même temps, il fallait pas jeter le bébé avec l'eau du bain, parce qu'il fallait pas pour autant confondre le nazisme et l'Allemagne tout entière, parce que sa mère, ma grand-mère, en un sens, était plus allemande que française, par la langue, elle parlait mieux l'allemand que le français, et elle incarne, elle était une figure de ce qu'on peut appeler la bonne Allemagne, quoi. L'Allemagne digne d'être aimée, tout ça est très compliqué. Moi-même, je dirais, dans mon rapport à l'Allemagne, il a évolué, bien sûr, considérablement. Je l'ai d'abord rejeté, j'ai refusé d'apprendre l'allemand. J'étais dans cette espèce de presque de phobie quand j'étais adolescent. Et j'ai bien changé là-dessus, c'est-à-dire que maintenant, je rêverais de parler fluently l'allemand, qui est une langue que j'adore.
Rodolphe Burger, quand on en vient à cette enfance que vous commencez à décrire, est-ce que vous pouvez nous donner des images qui vous reviennent de lorsque vous avez 7 ou 8 ans, de votre fratrie? Vous avez parlé de votre père, on sait que c'était quelqu'un d'assez calme, un peu taiseux comme vous, très élégant, beaucoup de prestance, et votre mère beaucoup plus curieuse, ouverte, beaucoup plus à poétiser le quotidien, ce qui est aussi quelque chose qu'on retrouve chez vous.
Vous avez, c'est drôle, parce que vous avez mentionné vraiment quelque chose qui est un souvenir, oui, marquant. C'est la cour dans laquelle on jouait enfant avec mes frères et sœurs. On était une fratrie. J'ai un frère, Jean-Marc, qui est né en 68, donc avec 10 ans d'écart. Mais on était une fratrie très très proche. Mon frère Bertrand, mon frère cadet Bertrand, ma sœur Florine. Et donc on était tous les trois très proches et on habitait dans la même chambre, dans un appartement à Sainte-Marie-aux-Mines, avec une cour dans laquelle, alors voilà, mon souvenir, c'est vraiment de porter cette espèce de coiffe d'Indien et de chevaucher un cheval imaginaire. Voilà, c'était ça mon jeu et ça mon personnage, donc c'est assez drôle. Donc voilà, je me prenais pour un petit cow-boy ou un petit Indien, l'un ou l'autre.
Donc c'était une enfance heureuse.
Oui, bien sûr, une enfance très heureuse, même, je dirais, jusqu'à l'âge de 10 ans. Il y a eu un très grand changement, en fait. Je me rends compte que ces années-là, 67-68, c'est pas seulement le mai 68 qui aura vraiment, concerné tout le monde. Même moi, enfant, hein, en 10-11 ans, j'étais là, accroché à la télé, à regarder ce qui se passait à Paris, et avoir envie même d'y être, d'en être. C'est aussi le moment où il y a un changement de statut social, au fond, dans ma famille. C'est-à-dire que mon grand-père décède. Mon grand-père était chef d'entreprise d'une petite scierie. Il s'appelait Rodolphe, comme moi. Je l'ai peu connu, ou j'ai peu de souvenirs de lui, mais c'était quelqu'un, je sais ça, de très tyrannique. En tout cas, il a été avec mon père, qui, au fond, n'a pu vraiment donner toute sa mesure, parce que mon père avait une dimension vraiment d'inventeur. C'était un ingénieur et un inventeur à l'ancienne, comme ça. Tu vois, il y avait plein d'idées constamment d'innovation technique. Comme il a été obligé, lui, de reprendre l'entreprise, parce qu'il n'avait pas la possibilité, comme j'ai eu moi, de passer la main à un frère. Il a quand même vécu sous la coupe de ce grand-père jusqu'à l'âge de 40 ans, quoi, quelque chose comme ça. Et donc c'est l'âge d'un changement, c'est-à-dire que, comme ça se fait souvent dans les familles, c'est ma grand-mère qui emménage dans l'appartement, le petit appartement où nous vivions avant, et on aménage dans la grande maison, qui jouxte la Syrie, qui est tout à fait au centre-ville, ce qui représentait d'ailleurs un danger public, parce que mon grand-père, qui prônait l'autonomie énergétique, avait doté l'entreprise d'une machine à vapeur allemande, très très performante, mais très dangereuse, quoi, qui menaçait d'exploser, littéralement. Donc elle était nourrie, on la gavait de copeaux, elle produisait toute l'électricité de l'usine, mais aussi de la maison, la vapeur pour les séchoirs, etc. Enfin, et très bruyant d'ailleurs. C'était le cœur de cette petite usine au centre-ville. Donc tout d'un coup, on habite dans la grande maison qui jouxte cette scierie et au fond, on devient un peu des notables. Et ça, c'est quelque chose que je supporte très mal.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé?
C'est simplement que tout d'un coup, on change de voiture, par exemple. On roule en DS. Et moi, je refuse de monter dans la DS. Bon, c'est 68, mais il se trouve que j'étais fortement... J'étais sous l'influence de pasteurs, notamment un qui s'appelait Eugène Pi, qui a beaucoup compté pour moi et qui était un membre du PSU. Le PSU, c'est le Parti Socialiste Unifié, donc c'était à l'époque Michel Rocard qui le dirigeait avant qu'il rentre au PS. Et le PSU prônait l'autogestion. Par exemple, toute l'histoire de LIP, l'extraordinaire histoire de l'usine LIP à Besançon, était une sorte d'illustration par l'exemple de l'autogestion prônée par le PSU. Et Piaget, qui est décédé récemment, là, qui était un peu le leader de ce mouvement chez LIP, était au PSU. Et donc moi j'étais très, très proche de ce jeune pasteur qui revenait de l'usine Peugeot, qui arrivait comme pasteur de Sainte-Marie-aux-Mines, mais qui arrivait de l'usine Peugeot de Mulhouse, et qui était pasteur installé, comme on a parlé des prêtres ouvriers. Donc qui revenait de cette expérience ouvrière, et qui était, je dirais, intellectuellement, quoi, quelqu'un de très fort et politiquement très, 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 très engagé aussi.
Vous avez 12 ans?
Ouais, voilà, j'ai même pas, j'ai 10-11 ans. Et je deviens au fond un petit révolté, un petit gauchiste, un petit 68-art, quoi. Et je fais la leçon à mes parents, je dis que jamais de ma vie je ne reprendrai cette entreprise. Alors tout le monde pense que je vais un jour me calmer, parce que je continue en tant qu'aîné à être le supposé héritier. Celui qui reprendra un jour, qui se calmera et reprendra, rentrera dans le droit chemin. Et je suis jamais rentré dans le droit chemin.
Mais alors c'est une colère d'enfance un peu à la Gavroche, ou au contraire c'est un petit Robespierre là qui déjà théorise?
Oui, voilà, c'est un peu ça quand même, avec assez nourri justement à travers Eugène Pi. C'était un drôle de mix de calvinisme et de socialisme. Eugène Pi avait été à la faculté de théologie de Strasbourg. La faculté de théologie de Strasbourg, il faut savoir que c'était quand même... Elle était de haute tenue, hein, intellectuellement. Il était tout imprégné, surtout dans ces années-là, je dirais de philosophie, notamment une philosophie assez radicale, dans un courant du calvinisme qui était la philosophie de la mort de Dieu. Un auteur qui s'appelait Bultmann. C'était quelque chose qui était tout proche, au fond, de se les découvrir bien après, bien sûr, mais de la philosophie de quelqu'un comme Nietzsche. Donc, de la pensée de Nietzsche. C'était, je dirais, quelqu'un qui avait été formé... à une théologie extrêmement spéculative, peut-être comparable à certaines formes de judaïsme très spéculatif, lui aussi très philosophique, qu'on peut rencontrer chez Lévinas, Emmanuel Lévinas. En tout cas, ça a résonné après, quand je me souviens, quand j'ai lu Lévinas bien après, quoi, dans mes études de philo, quoi. Ça résonnait beaucoup avec cette forme-là, un peu radicale de calvinisme, et qui, évidemment, prenait l'étude du texte comme unique pratique finalement religieuse. C'est l'interprétation, l'analyse sans fin du texte qui est fondamentale. Et j'étais convié à des exercices comme ça, collectifs de lecture, qui, je pense, ont été pour moi plus formateurs, au fond, que toutes mes études secondaires, etc. Parce que là, il y avait une sorte de pensée analytique, quoi, au travail. Et en plus de ça, c'est un moment où l'Église réformée de France était dans un moment... étonnamment engagé à gauche, très à gauche. Il y avait un document qui circulait qui s'appelait Église et pouvoir, qui était un vrai brûlot. Il faut dire aussi qu'en Alsace, les réformés, donc les calvinistes, étaient minoritaires. À l'intérieur même de l'Église protestante, qui est minoritaire par rapport aux catholiques. Mais ce qui domine en Alsace, c'est évidemment les luthériens, parce qu'on est en terre germanique. Et donc ça donnait quelque chose, on était la minorité de la minorité.
Mais on aimerait en savoir un petit peu plus sur cette vie quotidienne à Sainte-Marie. Comment ça se passe? C'est une ville de combien d'habitants?
Alors je dirais que c'est une ville très urbaine, même si elle est petite. Quand j'y vivais dans mon adolescence, il devait y avoir quoi, quelque chose comme 6-7 000 habitants. Il y avait eu bien sûr une hémorragie de la population à Sainte-Marie du fait des crises successives. C'est une ville qui a historiquement connu d'abord une période de prospérité assez mirifique, un Eldorado du temps des mines d'argent. Donc c'était au Moyen-Âge. La moitié de l'argent du Royaume de France, après, plus tard, au moment de Louis XIV, était extraite à Sainte-Marie-aux-Mines. Donc ça attirait aussi les gens de partout. Les mineurs venaient d'Autriche, d'Italie, etc.
C'était un Eldorado.
La vallée était truffée de mines d'argent. Puis ça s'est tari assez vite. Donc à la fin du 18e, déjà, c'était fini. Et ce qui a pris le relais de ça, c'est l'industrie textile. Là aussi, une industrie textile très prospère, très... C'est en même temps que Mulhouse. C'est une histoire très comparable. Sainte-Marie est un petit Mulhouse, au fond, engoncé dans une vallée vosgienne, quoi. Avec ce mélange donc de paysages industriels très concentrés et en même temps de nature, des forêts magnifiques. Et ça lui donne un petit côté américain aussi, je dirais. Un côté western, quoi, hein, le décor très urbain et puis derrière tout de suite la nature.
Et puis peut-être dire un mot sur la communauté Amish.
Ah oui, 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 bien sûr, c'est le fondateur de la communauté Amish en Pennsylvanie aux États-Unis, c'est Jacob Amman, qui vivait dans un petit vallon, là, à côté de l'endroit où j'ai aujourd'hui mon studio, là, installé dans une ancienne ferme de la branche paysanne de ma famille. Jacob Amman était un tailleur qui allait tailler des costumes chez les gens, et du coup, il en profitait pour les évangéliser. Et donc, il a lui tout seul créé une secte. Les Amish, qui sont partis aux États-Unis après la révocation de l'édit de Nantes. Mais Jacob Amman n'est qu'un exemple de, je pense, de la multitude de fondateurs de sectes qui proliféraient à cette époque. Et mon origine est très certainement aussi de ce côté-là, c'est-à-dire du côté de mon père. On a fait quelques recherches et je viens de Suisse allemande. Et les Suisses allemands, à un moment donné, ont décidé de se débarrasser de tous ces anabaptistes qui proliféraient. Et donc, dans la région de Berne, de Zurich, et dans mon cas, je crois, c'est plutôt du côté de Bâle, on a été éjectés et on est allé se réfugier dans les vallées d'Alsace. Et une de ces vallées, c'est celle de Sainte-Marie-aux-Mines. Et Jacob Amman, s'aimait à partir du fond de cette vallée.
Il reste quand même le festival international du patchwork.
Oui, absolument. Qui a été créé, du fait de cette origine des Amish. Donc c'est la Mecque des Amish. Oui, il y a le festival du patchwork, entre autres événements extraordinaires à Sainte-Marie. Et puis un autre événement extraordinaire qui est la Bourse aux minéraux. Alors ça renvoie au passé minier. Une fois par an, au mois de juin, c'est le centre du monde. Vous avez des Touaregs, des gens qui viennent vendre des émeraudes, des Afghans, des gens du monde entier se retrouvent à Sainte-Marie pour échanger des pierres précieuses, semi-précieuses et tout ça.
Et soudain, le monde entier apparaît à Sainte-Marie. Alors, j'aimerais revenir sur cette scierie et peut-être rentrer par cette machine-outil. Hein, c'est l'outil qui fait tourner les machines, inventées, sophistiquées, améliorées par votre père, hein, qui se situe entre l'ingénierie et l'invention. Le bruit que tout ça peut produire aussi, et quel lien ça peut aussi avoir pour votre éducation musicale, hein. On parle de crotrock, donc là on est en plein crotrock avec ce son industriel. On sait parfaitement que le rock'n'roll a été inventé par des gens qui ont connu et les bombardements et la révolution industrielle. Et puis rappelez que votre père vous a incité, sinon obligé, à travailler à la scierie pour comprendre ce qu'était ce travail-là.
Oui.
Rodolphe Burger.
Absolument, ça c'était une règle familiale. Il fallait que les fils connaissent le travail ouvrier, toutes ces étapes. Donc, le problème, c'est qu'on est resté allé à la première étape. On a été réquisitionné pour du travail de manœuvre, tout simplement. Donc, être derrière une machine, une raboteuse, par exemple. Et empiler des planches. Mais ça, pendant des heures, évidemment, j'ai connu l'époque où c'était encore des journées de 10 heures. 10 heures, quand on est enfant, à empiler des lattes.
Tous les jours.
Avec un bruit infernal, ça donne une petite expérience quand même de ce que c'est que.
Vers 11 ans,
c'est tout. Oui, c'est ça. Ça donne une expérience de ce que c'est que la condition ouvrière, quoi, comme disait Simone Weil. Donc, à travers ça, voilà, je pense avoir. Eu un aperçu.
Et ce lien avec le son, le bruit d'une guitare, ce vrombissement.
Ça, je ne sais pas. J'ai tendance à relier, moi, la guitare plus à... C'est à la fois le cheval et c'est la moto, la mobylette, ou je ne sais pas comment ça. Alors, on en faisait beaucoup, beaucoup, là, quand on était gosse. Donc, c'est plutôt ce bruit-là et cette sensation-là aussi, de chevaucher une machine. C'est Easy Rider, quoi. C'est chevaucher une machine.
Et alors, on vous voit... Garçon entreprenant, refusez la succession et vous dirigez vers la musique. On a l'impression que vous allez devenir un musicien de rock et on se dit même, allez, la scierie, la guitare, le bois, peut-être pas le bruit, mais en tout cas le bois. La guitare qu'on plaque contre soi, c'est toujours ces planches, hein, elles sont toujours là. Ouais. J'ai envie de terminer pour rappeler que vous étiez guitariste et non pas chanteur au départ. Et la première fois que vous avez chanté sur scène, ça a été très bref parce que oui. Vous êtes évanoui.
C'était avec mon petit groupe de l'époque. On a animé les fêtes de Noël de la section bûcheronnage du collège technique de Sainte-Marie-aux-Mines. Et j'ai tenté, pas la première fois, mais la seconde, j'ai essayé de chanter un morceau que j'adorais de Jimi Hendrix, une ballade qui s'appelle Hey Baby. Et je me suis évanoui, en effet. Donc ça a été un fiasco immédiat. Je me suis tout de suite réveillé, mais quand même, j'ai renoncé complètement au chant, qui n'est revenu que bien plus tard. Mais c'est vrai que ce morceau reste, pour moi, quelque chose qui a une valeur, c'est presque une scène primitive. Et donc, de parvenir un jour à en enregistrer une version sur l'album Météor Show, et même de le reprendre en live et de le chanter maintenant assez régulièrement avec mon trio actuel, c'est vrai que c'est... Bon, pour moi, ça a une signification particulière. J'ai fini par ne pas m'évanouir.
Voilà. Alors, après cet étourdissement, cette révélation, eh bien, vous partez à Strasbourg. Les années passent. On est en 75, 76, 77. Hein, vous avez 18 ans, 20 ans, une vingtaine d'années. Une nouvelle vie va commencer. On l'imagine très rock'n'roll, mais en fait, pas du tout. Pas vraiment, vous allez changer de voie, vous vous dirigez vers l'étude de la philosophie, vous abandonnez quasiment la musique, et c'est de ce détour, de cet événement dont on parlera demain. Rodolphe Burger, on va se quitter en écoutant bien sûr
Hey Baby.
Hey Baby.
C'était À Voix Nue avec Rodolphe Burger. Réalisation Jean-Philippe Navarre, prise de son Benjamin Reyes, chargé de programme Daphné Abgral. Une série d'entretiens proposée par Antoine Couder, disponible sur franceculture.fr et l'application Radio France.
Hey, gypsy baby. Where are you coming from? Coming from she grins and points to space, puts a smile on her face and says, I come from the land of the new rising sun. Where are you trying to get to? She says, I'm trying to spread love around to the moon and Lord, peace of mind to you and yours. Hey, I come along. Yeah, I come along. May I come along.